Les colloques du Collège de France.
Et nous poursuivons cette session sur Boulez à travers ses archives avec une communication d'Agnès Simon-Recht. Agnès Simon-Recht est conservatrice à la Bibliothèque nationale de France où elle dirige le service des collections patrimoniales au sein du département de la musique. C'est elle qui a pris soin du fonds Boulez en particulier à son arrivée dans le département et donc nous l'avons invitée à nous parler de ce fonds mais nous en parler aussi dans une perspective disons tournée vers des appropriations et des recherches futures que l'on pourrait encourager à partir de ce fonds et je la remercie beaucoup de sa participation.
Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous parler de ce fonds aujourd'hui. En effet, en 2017, la Bibliothèque nationale de France a reçu en don le fonds Pierre Boulez, un fonds considérable de plus de 200 mètres linéaires et qui vient compléter précisément la collection Paul Zahrer dont vient de parler Alain Gagliari. Alors la BNF, Alain en a parlé un petit peu, conservait déjà de son côté quelques collections boulésiennes, des manuscrits musicaux dont je ne vais pas répéter le détail, une correspondance avec Pierre Soulchinski qui vient de faire l'objet d'une édition remarquable chez Contrechamp. Pierre Soulchinski qui était son grand ami, mais aussi celui qui l'aida à fonder le domaine musical. Et qui a aussi donné quelques manuscrits musicaux à la BNF, des archives de la compagnie Renaud Barreau, dont on a parlé, et également des archives du domaine musical entrées grâce à Suzanne Tesnas. Mais il n'y avait pas à proprement parler de fonds d'archives Pierre Boulez. Or, si Pierre Boulez avait pris des dispositions de son vivant pour la préservation des manuscrits et d'une partie de sa correspondance musicale, ce n'était pas le cas pour sa bibliothèque, ses partitions annotées, notamment pour la direction d'orchestre, et pour le reste de ses archives, qui étaient demeurées chez lui à sa mort en 2016. Ce sont donc les ayants droit du compositeur qui ont eu le souci à la fois de préserver ces documents et de les faire entrer dans les collections nationales eu égard à ses activités en France et en parallèle avec l'archivage en Suisse. En parallèle, s'est constitué un comité Pierre Boulez, dont Alain Gagliari fait partie, chargé de veiller sur la mémoire du compositeur. Alors, dans un premier temps, il s'agissait de conserver l'importante bibliothèque conservée dans deux lieux, à Baden-Baden, dans sa résidence au 9 Kapuzinerstrasse, qu'il avait loué en 1960, puis acheté en 1995, et qui était son lieu de composition, pour faire simple, où il se retirait pour composer, et dans un deuxième lieu à Paris, dans son appartement au 25 quai André Citroën, dans le 15e arrondissement, où il s'est installé en 1974. Dans cet appartement se trouvaient aussi quelques archives, des objets comme des instruments musiques, des photographies, quelques enregistrements, mais aussi de nombreuses partitions annotées qui étaient destinées dans un premier temps à rejoindre la Philharmonie de Paris, eu égard au lien de Pierre Boulez tant à Laurent Bell qu'à cette institution. Et souhaitant favoriser la conservation des documents et assurer la cohérence du fonds, mais aussi permettre aux chefs d'orchestre de passage de pouvoir consulter ces partitions annotées, Laurent Bell a proposé un accord de partenariat avec la BNF. Les documents sont conservés et consultables à la BNF, mais ils sont également numérisés pour une consultation occasionnelle dans les emprises de la Philharmonie. Il s'avérait également qu'un ensemble important d'archives demeurait dans un appartement à Vincennes, rue des Laitières, qui était utilisé comme bureau après son départ de l'IRCAM, utilisé par lui et par ses secrétaires. Donc c'est un panorama, si vous voulez, de ce gros fonds d'archives que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Un fonds qui présente la particularité, tout de même pour un archiviste, de contenir pas ou peu de manuscrits musicaux, qui sont les sources classiques de la musicologie, et qui présente pourtant un intérêt, me semble-t-il, majeur pour la connaissance du Pierre Boulez, notamment après les années 1975, d'un Pierre Boulez compositeur, d'un Pierre Boulez chef d'orchestre et d'un Pierre Boulez homme d'institution. Je vous propose donc, je vous propose donc de vous parler de ces archives, de la bibliothèque de livres et de la bibliothèque de partitions annotées. Ces archives, donc reflet d'une activité protéiforme, voilà telle qu'elle se présentait quand nous sommes allés les chercher à Vincennes. Ces archives, en fait, ont été classées, organisées et constituées par sa secrétaire principale, son assistante Astrid Schirmer, figure importante de l'entourage de Pierre Boulez, qui fut son assistante donc jusqu'en 2008, avant d'être remplacée par Marion Thiem. C'est elle qui gère l'essentiel de la correspondance professionnelle et même en partie personnelle, qui organise l'agenda, qui s'occupe des contrats et des différents engagements de Pierre Boulez. Elle travaille en lien avec Nancy Hartmann et puis avec Klaus-Peter Altkruse, qui nous a quittés, et qui gérait de l'autre côté l'autre partie du secrétariat depuis l'IRCAM. Des relais pouvaient également exister depuis l'étranger, notamment avec Adèle Zigal aux États-Unis. Donc en fait, ces archives, telles qu'elles sont aujourd'hui conservées à la BNF, montrent l'activité de Pierre Boulez au prisme de ce travail d'assistant. Sont organisées selon de grandes séries organiques, plusieurs types de documents. D'abord, une correspondance chronologique à partir de 1975, correspondance internationale, essentiellement en français, en allemand et en anglais, qui concerne des musiciens, des musicographes, des hommes et femmes de lettres, des artistes, des personnalités politiques, des hauts fonctionnaires notamment. Des agendas, je crois que j'en ai mis un exemple ici. Des agendas, là aussi, sur la période dont je vous ai parlé, qui ne sont à nouveau pas des agendas autographes de la main de Pierre Boulez, mais ceux de ses assistants, qui montrent aussi comment il gère la multi-activité de Pierre Boulez et son rayonnement à travers le monde. On a quelques exemples ici, des entretiens, voilà, on voit Christopher Lawton, Chris Wilcox, des réunions, comité d'administration, conseil d'administration à la Villette, des déplacements, taxi, etc. Donc là, c'est bien la main d'Astrid Schirmer qui écrit cet agenda. Par ailleurs, plusieurs mètres linéaires, une dizaine de mètres, concernent le suivi, disons, du quotidien, l'organisation en fait du travail de Pierre Boulez, le suivi des relations avec les éditeurs de musique et de disques, les concerts, les festivals, la gestion des droits et des revenus également, à la fois en France, en Allemagne et aux États-Unis, jusqu'à la gestion des appartements et des voitures, qui représentent donc une masse assez importante d'archives. Mais enfin, et qui me paraît particulièrement intéressante dans ce fonds, concerne les archives institutionnelles et administratives. Ces archives tiennent une bonne place. D'une part, on peut distinguer des archives qui concernent les institutions que Pierre Boulez a fondées, mais dont il passe le relais de la direction, donc l'ensemble intercontemporain et l'IRCAM. Dans ces archives, qui sont des archives administratives, des conseils d'administration, de la correspondance, des comptes rendus de réunion, on décèle néanmoins l'intervention de Pierre Boulez, même s'il a passé le relais à, pour ne pas citer l'ensemble intercontemporain, à Brigitte Marger, à Claude Lecléac, puis ensuite Hervé Boutry. Il intervient sur tel ou tel point de ressources humaines, il intervient sur les commandes de l'ensemble intercontemporain, il intervient aussi et particulièrement sur des points stratégiques, comme le fait de chercher et de trouver un lieu de résidence pour l'ensemble intercontemporain. Un deuxième ensemble d'archives, pour moi, sont les archives qui concernent l'Opéra Bastille, la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris, que je ne vais pas détailler ici, mais qui reflètent cette fois l'engagement de l'homme au travers d'institutions qu'il n'a pas fondées directement. Cet engagement s'est marqué, certes, de manière, disons, pas forcément officielle à travers, officieuse, disons, à travers la presse, à travers ses relations avec les hommes politiques, mais elle s'est également présentée avec par ses activités officielles. Donc, dans le cas de l'Opéra Bastille, il a été appelé par la haute fonctionnaire Michèle Audon dès 1983 pour faire partie de la mission Opéra Bastille et présider un groupe de travail sur la fosse d'orchestre, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que, découlant de cela, les archives qui sont à la BNF sont en grande partie des archives administratives. D'ailleurs, une partie de ces archives peuvent se trouver ou se trouvent également aux archives nationales, notamment dans la série AJ13. Sauf qu'ici, dans ces archives, on a le prisme boulésien et on peut voir l'engagement particulier de Boulez sur tel ou tel point. Et évidemment, sur la partie Opéra Bastille, l'engagement sur et l'intérêt à l'égard de la construction d'une salle moduable qui était un point qui tenait particulièrement à cœur au compositeur, est particulièrement visible et plusieurs boîtes d'archives lui sont consacrées. Je donne quelques exemples très brefs. Ainsi, participant, président le groupe de travail sur la fosse d'orchestre, on voit ces choses assez rares dans les archives, cet ensemble d'archives. Pierre Boulez a noté ces documents et s'intéresser à des aspects très, très pratiques de la construction d'une salle modulable. Non seulement il s'intéresse à la forme de la salle modulable ou salle expérimentale en s'appuyant sur différents types d'opéras contemporains, les Soldats de Zimmermann, le Saint-François d'Asie, 6 de Messiaen, je crois que c'est un exemple qui est donné à gauche de l'écran. Mais aussi, il réfléchit à tout l'agencement global de l'espace de l'opéra, les espaces annexes, les loges, les foyers, les bureaux, à la fois leur taille, leur disposition, la distance avec la fosse, tout est pris en compte. Voilà, c'est mon tout doux. Évidemment, vous ne pouvez pas voir les pattes de mouche, mais c'est un des aspects. C'est un des exemples, parmi d'autres, de son engagement au travers qui peut être lu dans ses archives sur l'Opéra Bastille. L'objet aujourd'hui n'est pas de présenter son rôle dans la construction de l'Opéra Bastille, mais simplement, je souhaitais vous montrer comment ces archives invitent à déceler, à discerner l'implication, le type d'engagement de Pierre Boulez dans ses projets. Il n'est pas toujours le créateur direct du contenu des archives, mais il en est bien le producteur au sens archivistique du terme. Donc à la frontière entre archives personnelles et professionnelles, entre archives institutionnelles et personnelles, organisées par ses assistants, les archives de Pierre Boulez sont le reflet d'un créateur multi-actif, et pour reprendre le terme de Pierre-Michel Minger, sont le reflet d'un créateur multi-actif qui gère la démultiplication de soi. Si j'ai un petit peu de temps, je vais poursuivre avec un deuxième aspect, qui est celui de la bibliothèque, creusée de l'invention boulésienne. Donc là, j'ai repris une expression qui m'a semblé pertinente dans le dernier livre de Laurent Bayle, qui consacre un chapitre à la littérature pour Pierre Boulez. Cette bibliothèque, voilà à quoi elle ressemblait quand elle était à Baden-Baden. C'est un petit morceau parce qu'elle est énorme. Et à Paris. En effet, il est connu que Pierre Boulez était un lecteur assidu, un gros lecteur. Sa bibliothèque, en grande partie littéraire et artistique, compte au total, de ce qui a été actuellement trié, plus de 12 300 documents. Aujourd'hui, je peux dire que l'ensemble de la bibliothèque a été trié, donc on a une liste de l'ensemble de ses livres. Tous les livres ne sont pas conservés par la BNF. Certains font doublon ou ne présentent pas de particularité d'exemplaire. Ce qui explique qu'aujourd'hui, 7000 sont conservés, donc on est à peu près à la moitié. Et en revanche, le travail de catalogage précis est en cours, avec presque 2000 documents catalogués à ce jour. Cette bibliothèque s'est constituée dès l'après-guerre Et de même que Pierre Boulez datait et signait ses manuscrits musicaux autographes au début, dans l'après-guerre, de même il signait il mettait des signatures ou des ex-libris, si vous voulez, sur ses livres à cette période-là, à peu près jusqu'aux années 1940. Et cette bibliothèque a continué d'être alimentée tout au long de sa vie. Depuis les séminaires Bibliotheque di Compositori tenus à Venise en 2016 et le séminaire Les bibliothèques de compositeurs, compositrices pratiques de lecture et espace dynamique de la création musicale à l'Université libre de Belgique en 2022, les bibliothèques de compositeurs, il est reconnu, disons, que les bibliothèques de compositeurs sont devenues un objet de recherche en soi. Or, il me semble que deux approches, il y en a certainement d'autres, sont possibles pour aborder cette bibliothèque. La première est une approche, disons, presque sociologique, en tout cas qui constituerait à observer les relations nouées par Pierre Boulez avec les écrivains, les penseurs, les artistes de son temps. René Char, dans l'après-guerre, Armand Gatti, Pierre Geoffroy, puis les écrivains rencontrés grâce à Paul Thévenin, Antonin Artaud, Jean Genet, puis Michel Butor, qui lui ouvre les portes vitres fermées du nouveau roman. Les auteurs qu'il rencontre chez la mécène Suzanne Tesnas, Henri Michaud, Yves Bonnefoy, Pierre-Jean Jouve, par exemple. Les penseurs, tels que Michel Foucault, qu'il a introduit au Collège de France, Gilles Deleuze, Roland Barthes, la liste est fort longue. Or, c'est ce réseau, si vous voulez, de connaissances transparaît dans les nombreux livres dédicacés, j'en ai compté pour le moment plus de 600, ou des lettres d'envoi qui sont jointes aux livres présents dans cette bibliothèque. Cette bibliothèque peut également être lue au prisme de la correspondance de Pierre Boulez avec ces mêmes auteurs. Donc, un réseau de relations. Une autre approche, et disons plus musicologique, permet de comprendre ou d'aborder, disons, le rôle de la littérature dans l'invention boulezienne. Vous voyez ici une première liste que j'ai pu établir du nombre d'éditions possédées pour chaque auteur. Donc, René Char et Denis Diderot sont en tête. La présence de Diderot est d'ailleurs très intéressante parce qu'elle n'est pas forcément très connue, mais Pierre Boulez avait une admiration pour Jacques le Fataliste et avait notamment aussi toute la correspondance complète, et la pensée de Denis Diderot était assez présente. Il en parle aussi dans sa correspondance avec Pierre Soulchinski. Donc une approche musicologique, disais-je, disons peut-être de deux manières. Une première serait d'aller chercher les œuvres qu'il a directement mises en musique, donc des auteurs évidents. Dans ces œuvres, une petite partie, une toute petite fraction, mais une fraction intéressante, comprend des livres annotés. C'est le cas, ils sont tellement peu nombreux que je peux les citer, de Fureur et Mystère de René Char, du Marteau sans maître, de Poésie de Mallarmé. Ici on a le poème Je vous montre à la nue accablante tu, que l'on retrouve dans Improvisation 3 de Pli selon Pli. D'Henri Michaud également. Ici, je vous montre une édition de Face au verrou annotée par Pierre Boulez. Alors, curieusement, il ne s'agit pas de Je rame qui a été utilisé pour Poésie pour pouvoir, mais d'un autre poème. Agir, je viens, qui présente des annotations en vue d'une mise en musique. C'est le terme que je vais employer, faute d'en trouver un meilleur. Également, là aussi je l'ai mis parce qu'il c'est moins connu, l'œuvre Litanie d'eau de Michel Butor, sur lequel il avait un projet de cantate, dont fait état d'ailleurs Robert Pienczykowski dans un article portant sur Boulez et Mallarmé. Une autre façon d'aborder cette bibliothèque, dont je remets rapidement, excusez-moi, les principaux auteurs présents, c'est de voir ces œuvres comme cette bibliothèque comme le creuset de l'invention boulezienne, pour reprendre ce terme. que j'ai mentionné tout à l'heure. En effet, on y trouvera les classiques, mais aussi la modernité, des auteurs de la modernité, et en premier lieu les quatre auteurs très régulièrement commentés par Pierre Boulez, Kafka, Proust, Joyce et Mallarmé, non seulement pour la conjonction, si vous voulez, entre les recherches formelles des œuvres littéraires et des œuvres et de l'œuvre musicale, l'œuvre Labyrinthe chez Joyce, la prolifération proustienne, l'œuvre ouverte chez Mallarmé, mais aussi pour la conception, pour la métaphysique de l'œuvre d'art qu'elles expriment. J'ai trouvé deux citations qui me semblaient éclairantes à cet égard et que vous connaissez. Celle qui est dans donc l'édition de correspondance de Pierre Boulez à Pierre Souchinski. La musique peut être plaisir, mais sa plus haute fonction est avant tout connaissance. Je crois que mon attachement aux compositeurs ou aux peintres et aux écrivains vient de cette faculté qu'ils ont ou non pas d'une certaine expérience mystique. Charme a déçu, et pour jamais du jour où j'ai constaté qu'il était incapable de fonder une poésie ailleurs que dans la sensation. Donc c'est une période où il se détache de la poésie de René Char. Donc là, on voit qu'il voit plus large, en fait, qu'il voit plus large que non seulement que la simple mise en musique, mais aussi que les considérations purement formelles ou d'évolution du langage. Un deuxième extrait qui est tiré de Son et Verbe me semblait être entré en résonance. On peut noter que les poètes ayant travaillé sur le langage lui-même sont ceux qui laissent sur le musicien l'empreinte la plus visible. Évidemment, nous viennent immédiatement à l'esprit les noms de Mallarmé plutôt que Rimbaud, de Joyce plutôt que de Kafka. Aussi bien arriverait-on à une classification assez floue, à vrai dire, qui départagerait les influences précises, dirigées, et les influences plus diffuses par osmose. Cela ne signifie pas que la première de ces deux catégories soit plus importante ou opère plus profondément que la seconde, c'est la manière d'agir qui diffère. Donc dans cette liste là que je vous ai montrée tout à l'heure, il y a un certain nombre de différentes façons d'innerver l'invention boulésienne qui mériteraient, à mon sens, qui ont déjà été étudiées, mais qui pourraient être encore davantage creusées au travers l'observation de la bibliothèque boulésienne. Je vais terminer, en essayant de ne pas trop prendre de temps, sur un point que j'ai mis en dernier, car j'en ai parlé lors du dernier colloque à la Philharmonie de Paris, qui concerne les partitions, la bibliothèque de partitions de Pierre Boulez. En effet, sur 2424 partitions imprimées ayant appartenu à Pierre Boulez et aujourd'hui cataloguées, 876 portent des annotations en majorité pour la direction d'orchestre. Or, ces annotations, elles sont, pour aller vite, de plusieurs types. D'une part, on trouve quelques traces d'analyse, mais elles sont rares et ponctuelles. Les études de Debussy, qui ont été étudiées lors de l'avant-dernier colloque sur Pierre Boulez, qui s'est tenu à la Philharmonie de Paris en 2021, consacré à l'œuvre pour piano, ces études ont été abordées par Paolo Mdalmodine, je vous y renvoie. L'autre partition annotée remarquable est celle du Sacre du Printemps, manifestement acquise en 1946, puisqu'il est marqué août 46 avec la signature de Boulez, mais qui porte les annotations sur les cellules de rythme sérialisées, exact complément de l'analyse telle qu'on la lit dans Relevé d'apprenti sous le titre Stravinsky demeure. Un deuxième type d'annotation concerne les corrections, donc certains d'entre vous ont déjà connaissance de ce type de correction. Corriger les erreurs matérielles semble un préalable absolument nécessaire à l'interprétation. Elle reflète aussi l'état de l'édition qu'il a en main à ce moment-là, à cette époque-là. Ainsi, elles sont nombreuses, les corrections apportées par Pierre Boulez sur la musique, elles sont nombreuses dans les partitions de Ravel, de Debussy, de Schoenberg, de Berg, de Stravinsky, mais quasi absent chez d'autres, comme chez Wagner, chez qui les éditions sont très correctes, et Mahler. Le cas de Debussy est remarquable à cet égard, parce que dans la mesure où l'édition musicale était particulièrement compliquée pour Debussy. D'une part parce que les éditions qu'il possédait contenaient beaucoup d'erreurs matérielles évidentes, et d'autre part parce que le retour aux sources et l'établissement pour l'établissement d'une édition critique des œuvres de Debussy pose de nombreuses questions aux musicologues. Il est souvent difficile de trouver la version de référence et les choix peuvent être parfois compliqués à établir. De fait, l'ensemble des partitions de Debussy du corpus de Pierre Boulez sont truffées de corrections. Parfois des petites corrections, des corrections minimes, mais elles sont truffées de corrections. Or, Pierre Boulez oscille généralement entre deux intentions que je résumerai ici. D'une part, un souci d'exactitude, de précision, doublé d'un intérêt assumé pour les manuscrits, pour les sources archivistiques, et sa participation au travail d'édition critique de l'œuvre de Debussy en témoigne. Il s'ouvre à la démarche musicologique sans se revendiquer musicologue. Et d'autre part, sa liberté, elle aussi, régulièrement revendiquée de corriger le texte et la partition, et sa méfiance à l'égard de la notion de reconstitution ou d'authenticité. Dans le cas de Debussy, j'ai mis quelques exemples rapidement que j'avais développés lors de la dernière conférence. Un exemple qui est celui de Sirène, où il fait le choix d'ajouter bouche ouverte, bouche fermée, afin de jouer davantage sur les dynamiques entre le chœur et l'orchestre. Un petit exemple dans La Mer, où on sait qu'il y a eu deux éditions de La Mer chez Debussy, une en 1905 et une en 1909, et il y a eu un certain nombre de modifications entre-temps, et en général, on pourrait penser que c'est la dernière édition qui sert de référence. Or ici, Pierre Boulez fait le choix de revenir sur ce détail en particulier, c'est-à-dire qu'il scinde la mesure qui intervient avant l'intervention des violoncelles, pour ceux qui ont La Mer en tête, si je puis dire. C'est un drôle de raccourci. Il scinde la mesure en deux volontairement et se pose la question, quelle version convient le mieux ? Et un dernier exemple qui est le plus frappant peut-être, dans Péléas et Mélisande, un passage où le petit Tignol est en train d'observer les amants et fait mention du lit des amants. Ce passage avait été censuré et peu d'interprétations encore aujourd'hui prennent en compte ce passage. Or, Boulez le rétablit et prend la peine de le rétablir à la main, jugeant la présence de ce passage particulièrement important pour le sens de l'œuvre. Enfin, Dernier aspect de ces partitions à noter, ce sont les annotations d'interprétation qui sont en général des annotations simples, légères. Il n'y a pas vraiment de graffiti comme qu'avait caricaturé dans un texte Engelbrecht. Elles sont très simples, mais la principale annotation qui m'a intéressée concernait les battus. Ces triangles, les bâtons ou les U renversés, tels que vous voyez un exemple ici sur une partition de Stravinsky, sont assez bien connus des boulésiens, mais n'ont jamais vraiment, à proprement parler, été étudiés. Elle dessine les battus préconisés, leur nombre, leur forme, leur subdivision, la subdivision possible du geste, et on les retrouve chez quelques compositeurs ou chefs d'orchestre de cette période. Je les ai retrouvés chez Roger Desormières, dans une partition d'Olivier Messiaen, dans quelques partitions d'André Jolivet notamment. Or, et de toute évidence, c'est dans les œuvres du XXe siècle, à la métrique complexe, que Pierre Boulez note ces indications le plus fréquemment et de la manière la plus diverse ou la plus variée. Pierre Boulez se refusait de qualifier ses annotations de grammaire, je vais en donner un autre exemple rapidement ici, comparant plutôt ses signes à des doigtés pour un pianiste. Elles sont en revanche un fait indispensable pour la compréhension de la partition et de sa rythmique et de son temps, et permettent de lever aussi toute ambiguïté lors de la partition. Pour terminer cette présentation, j'avais mis cette partition annotée qui est en fait à mi-chemin entre une étape, donc du marteau 100 mètres, pardon, qui est à la fois une étape, encore une source supplémentaire dans la connaissance du marteau 100 mètres, en plus de toutes les sources manuscrites dont a pu faire état, par exemple, Alain, et d'une source pour le chef d'orchestre, pour la connaissance des moyens de direction. Cette partition est en fait une copie assez mauvaise, de mauvaise qualité, du manuscrit autographe. Cette copie a été reliée et la reliure explose car il a rajouté à la fin le complément au dernier mouvement, la copie du complément du mouvement 9. Au contreplat supérieur, on retrouve, donc sur derrière la couverture, on retrouve le tampon de la Südwestfunk et des éléments de nomenclature et de disposition instrumentale. Et surtout, on retrouve de nombreuses, soit corrections, soit annotations de battus très très variées. Et très diverses. Voilà, vous avez quelques exemples que je ne détaillerai pas ici. Ma conclusion est une conclusion de bibliothécaire. Ces archives et cette bibliothèque sont inventoriées dans deux sites, donc les archives sur BNF Archives et Manuscrits, dont vous voyez une copie d'écran, et sur le catalogue dit catalogue général de la BNF, et vous attend dans salle de lecture.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.